D'abord, vous vous cassez la jambe. Alors, vous regardez par la fenêtre. Vos yeux sont tout injectés. Vous avez dû regarder par la fenêtre pendant des heures.
Vous ne croyez pas que l'un de nous pourrait changer?
D'un seul coup, ça me semble impossible.
Bonjour à tous. Bienvenue à Fenêtre sur cours sur Couleur FM 97.1. Cette émission, réalisée en partenariat avec la Cité de la CAF et avec le soutien de la Fondation de France. Vous êtes avec
Guylaine,
Maddy, bonjour,
Annie,
André
et Micheline.
Nous sommes très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous ouvrons plusieurs fenêtres. Rencontre du mois avec Janine et Franck Venturini pour la parution de leur livre Boussieux, une histoire en soi. Coup de projecteur sur notre entreprise innovante, le Troquet numérique. Vous êtes sur Fenêtre sur cours.
Bonjour Madame Venturini, vous êtes venue accompagnée de votre fils Franck et pour nous parler de votre livre. 192 pages, 306 illustrations, c'est un gros pavé. Et le titre, donc je le rappelle, Boussieux, une histoire en soi. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que Boussieux ?
Un lieu dit qui est à cheval sur trois communes. Pas beaucoup de gens le savent, mais d'un côté de la rue, donc nous sommes sur Bourgoin-Jallieu. En traverse, nous sommes sur Nivolas. Et l'autre côté de la Bourbre, donc là où il y avait l'usine, pensionnat, c'est Ruy.
Donc ce village, ce lieu dit, est-ce qu'il y avait une raison particulière pour que ça devienne un village important en textile à une époque?
La raison particulière, c'est que en 1891, par là, oui, la famille Schwarzenbach, donc qui était originaire de Suisse, cherchait à s'implanter dans les pays étrangers et notamment en France. Donc, ils ont visité la région. Et en visitant la région, ils sont tombés sur cette usine à Boussieux qui était à vendre, qui appartenait à la famille Auger. Donc le coin leur a plu et donc ils en ont fait l'acquisition.
Je peux simplement peut-être rajouter qu'effectivement l'usine Auger avant avait été installée suite à une dot, sans rentrer trop dans le détail parce que j'imagine qu'on est limité par le temps, mais... En fait, c'est une dot liée à la famille Auger qui fait que ce tènement a été acquis et ils ont développé leur souhait de faire une usine, donc qui était la première usine de fabrication de la soie qu'effectivement la famille Schwarzenbach a acheté ultérieurement. Pour juste donner quelques dates, c'était dans les années 1850.
Et à quel titre et pourquoi vous êtes-vous intéressé à l'histoire de Boussieux?
L'histoire de Boussieux, en tant que résident, ça fait 47 ans que j'habite Boussieux. La famille de mon mari, ça fait 70 ans. On a eu des membres de notre famille qui ont travaillé donc dans cette usine, les grands-parents de chaque côté, tout ça. Donc l'histoire du textile nous intéressait profondément. Donc, l'élément déclencheur a été les incendies de cette usine en deux fois. Le premier donc en 2004 et l'autre en 2008. Et là, quand on voit les gens pleurer devant leur outil de travail qui partait en fumée, donc je me suis dit, là, il faut quand même garder un devoir de mémoire, quoi, garder quelque chose de le peu qui va rester. Donc, de là, j'ai créé une association qui s'appelle Au fil du passé, à Nivola. Et donc, en 2010, nous avons organisé une exposition qui a très bien fonctionné, où là, déjà, pas mal de photos, de documents, de témoignages avaient été recueillis. Et donc, devant le succès de l'exposition, où là, les gens nous disaient, il faudrait pouvoir y mettre sur papier tout ce que vous avez recueilli. Donc le livre est parti de là, quoi, de l'exposition.
Parce que Boussieux semble avoir un riche passé, alors?
Voilà, tout à fait. Tout en étant un lieu dit, mais qui fonctionnait déjà comme un petit village, avait deux usines pensionnats. Donc on avait l'usine Schwarzenbach et l'usine Montrosier, qui était du même type de fonctionnement, avec des ouvrières qui venaient travailler la semaine, encadrées par des religieuses. Alors de là, ben, tout s'est construit. À partir du moment que l'usine s'est implantée, donc Boussieu n'y avait rien auparavant, les commerces se sont installés, les écoles, il y a eu de l'artisanat, il y a eu donc après une vraie vie de village.
Alors vous avez dit tout à l'heure que vous aviez recueilli beaucoup de documents, donc on se posait la question de savoir comment vous aviez procédé pour avoir des témoignages, des infos, des anecdotes. Comment vous avez fait ?
Eh bien là, c'est du fait que la famille de mon mari était sur Boussieu depuis fort longtemps, par connaissance. Donc, il me donnait des noms de personnes que j'allais interviewer. Et c'est vrai que j'en ai rencontré au moins une centaine quoi, de personnes.
De fil en aiguille, donc. Les gens que vous rencontriez, vous donnaient aussi d'autres noms, etc.
Voilà, voilà, voilà. Oui, oui.
Et ouais. Ça a pris beaucoup de temps, tout ça.
Ah oui, 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 oui. Rien que pour le livre, là, 2 ans, sans compter auparavant l'exposition, où là déjà j'avais déjà de la matière, et là aussi il a fallu. Parce que bon, je vois au niveau des photos, les photos, bon, ben je les empruntais, je les faisais développer, puis je les rendais, donc les photos sont chez moi, j'ai des archives.
Vous y avez travaillé tous les deux ?
Non, pas au niveau recherche. Il m'a aidé sur la fin. Voilà, oui, oui. Mais le plus gros du travail, donc, ça a été moi, oui.
Est-ce que les gens ont donné spontanément les documents et les photos qu'ils avaient dans leur grenier ? Est-ce qu'eux-mêmes ont recherché, se sont investis un petit peu pour vous procurer tout ça ?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Là, j'ai trouvé que ça a été une très bonne expérience. Des bons moments, parce que quand on allait chez les gens, ils vous racontaient une portion de leur vie, de ce qu'ils avaient vécu dans l'usine, à l'usine, dans le quartier, l'ambiance, tout ça. Donc, ça a été très riche. Tous les témoignages qu'on m'a apportés, c'est des bons souvenirs, oui. Il n'y a pas eu de problème, ni pour les photos, ni pour les documents, ni pour...
Jusqu'à quel moment elles ont fonctionné, ces usines, pour qu'on se situe à peu près dans le temps ?
Alors donc, elles ont fermé en 1993.
Enfin, dépôt de bilan, 94, le dépôt de bilan.
Oui, définitivement, quoi. Le dernier bilan est en 93 et fermeture en 94, oui.
Et quand on parle de Boussieu, on parle souvent des muettes de Boussieu. Alors, qui étaient ces muettes ?
Alors, je pense qu'il faut remonter un petit peu dans l'histoire. Pourquoi Boussieu, on a eu des muettes ? En fait, c'était sa part du père Rieffel, qui était donc un prêtre qui s'occupait de ses handicapés, mais à Curières, en Chartreuse. Et donc, il est venu à Boussieu rencontrer un directeur pour proposer de la main-d'œuvre des sourdes et muettes. Donc, c'est comme ça qu'elles sont arrivées sur Boussieu, les sourdes et muettes, par l'intermédiaire du père Rieffel.
Ça concernait beaucoup de personnes ?
Les sourdes et muettes ? Oui, oui, oui. D'ailleurs, on leur a construit donc un bâtiment après. Et dans le bâtiment, elles sont arrivées jusqu'à être 70, 90 même.
C'était très important finalement.
Oui, 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 bien sûr. Elles ont joué un rôle important dans Boussieu, hein, les sourdes et muettes. Et puis bon, au niveau de la main-d'œuvre aussi de l'usine Schwarzenbach. D'ailleurs, donc, en dehors de leur temps de travail à l'usine, elles brodaient, il y en a qui peignaient, il y en a qui avaient des doigts d'or. Hein. Donc, beaucoup de gens dans la région de Bourgoin doivent avoir dans leurs armoires des trousseaux qui ont été brodés par les sourdes et muettes. Depuis le début, depuis qu'elles sont arrivées.
Il y avait déjà des sourdes et muettes du temps de... Très peu, hein, mais
du temps de l'usine Auger, il y avait déjà des sourdes et muettes.
En fait, ce que le père Rieffel a apporté, c'est... Il a apporté plus de main d'œuvre aux sourdes et muettes, si je puis dire. On peut dire que le père Rieffel, dans la structure même architecturale de Boussieu, a beaucoup contribué, puisqu'on lui doit la maison Saint-Antoine, qui était la maison donc, où logeaient les sourdes et muettes. On doit la construction de cet édifice au père Rieffel, de la deuxième chapelle de Boussieu au père Rieffel, la maison Saint-François, qui est à côté de la chapelle, qui est la maison de retraite des sourdes et muettes, au père Rieffel aussi. Enfin, c'est un homme qui a eu quand même une influence importante sur le lieu-dit. Hein. En dehors, si vous voulez, de la construction des cités ouvrières et du lotissement des cadres qui ont été donc construites à la demande des dirigeants de Schwarzenbach.
Alors, votre livre est absolument magnifique. Parlez-nous de sa création. Comment s'est fait le choix des photos? Qui a écrit les textes? Et puis surtout le coût, comment vous avez trouvé un éditeur? Est-ce que vous avez eu des sponsors pour vous aider? Et est-ce qu'il se vend?
Pour le choix des photos, la mise en forme, tout ça. Alors, Franck a bien contribué, il a refait pas mal de photos. Il y a des photos familiales. Il y a des photos que les gens m'ont passées aussi. Pour la mise en forme du livre, donc, nous sommes passés par un éditeur qui se trouve à Trèpes, qui s'appelle Bicromia. C'est lui qui nous a fait la mise en page, mais nous avons travaillé avec lui. Quant à l'édition, donc, il est sorti en 500 exemplaires, mais il est sorti à compte d'auteur. C'est-à-dire, c'est la famille Venturini qui a avancé l'argent de l'édition.
Bien, nous avons entendu beaucoup de choses sur le livre de Boussieu, mais maintenant nous vous proposons une pause musicale avec une chanson dont Franck Venturini est l'auteur, Le Grand 8.
Vous êtes toujours sur Couleur FM Et à l'écoute de l'émission Fenêtre sur cour avec Janine et Franck Venturini pour la parution de leur livre Boussieux, une histoire en soi. Ce livre, Janine, vous nous avez alléché, mais maintenant, ce que nous voudrions savoir, c'est où nous pouvons nous le procurer.
Alors, il est en vente donc à l'Office du Tourisme et puis à Majolir. Et nous en avons des exemplaires à la maison aussi. Voilà.
Chaque foyer à Boussieux doit avoir son livre, je suppose.
Ben, écoutez, la façon dont il est parti, on suppose, parce que bon, là, on vient d'en expédier un carton de 15 livres à la fois. Donc, il y a des familles, on sait qu'ils en ont pris au moins 13. Donc, pour offrir, on le vendait à la période de Noël, donc, c'était une aubaine pour nous, quoi, parce que il s'offrait en cadeau.
Alors, est-ce que vous allez le rééditer?
Ben, s'il y a de la demande, mais bon, ça sera pas dans les mêmes conditions. S'il y a une nouvelle édition, donc ça sera par souscription. Donc ça veut dire comme quoi les gens s'inscrivent et ils payent le livre d'avance, quoi.
Combien est-ce qu'il faut éditer d'exemplaires pour que ce soit accepté par un éditeur? Parce qu'on se pose la question de savoir comment on fait quand on veut faire éditer un livre.
Oui.
Donnez-nous un peu des informations sur ça, je pense que ça intéresse les auditeurs.
Voilà, ben, écoutez-nous, un minimum c'était 500. Puis après, bon, c'est sûr que si on en fait 1000, ça diminue le prix du livre. Mais bon, là, le livre, il est vendu donc à 30€ à prix coûtant. Mm. Donc, j'ai aucun bénéfice là-dessus. Moi, je rentre dans mes frais et c'est tout.
Le bénéfice, c'est d'avoir rencontré tous les gens intéressants que vous avez vus.
Oui, oui. Tout à fait. C'était une bonne expérience.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, alors, en plus? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux auditeurs par rapport à ce livre, par rapport à la démarche que vous avez eue?
Donc moi je me suis occupé de la rédaction du livre, hein. En fait pour savoir, enfin situer un peu comment je suis venu dans ce projet, c'est que au départ quand ma mère a fait son exposition donc de photos, elle m'a sollicité pour l'écriture des encarts qui figuraient sur les panneaux de l'expo. Donc déjà là j'étais un peu impliqué malgré moi et puis j'ai fait l'affiche de l'exposition à l'époque. Et au fil du temps, bah j'ai un petit peu suivi comme ça de loin en loin son travail. De ses recherches, un petit peu par où elle passait aussi. Et du coup, à un moment donné, j'ai vu qu'elle était un petit peu dans une situation un peu coincée. Je lui ai proposé de lui donner un coup de main pour l'écriture du livre, en fait. Et ça tombait plutôt bien parce que moi, je rentrais de 14 ans de vie à Paris, donc j'étais beaucoup plus disponible ici avec la proximité. Donc voilà, là, on va dire que c'est une des raisons, mais il y en a d'autres. C'est mon attachement donc à Boussieux, au lieu, tout simplement, parce que c'est le lieu où j'ai grandi. Et puis, comme disait donc ma mère tout à l'heure, là, c'est quand même aussi l'histoire un petit peu de ma famille, puisque mon arrière-grand-père et ma grand-mère travaillaient dans l'usine. Donc voilà, tout simplement, moi, ça m'a semblé naturel d'écrire sur ce projet. Ouais. En fait, ce que moi j'aimerais vraiment transmettre à travers ce livre, c'est l'humanité qui a régné dans ce lieu. Pour moi, c'est la clé de voûte du projet. On est tellement dans une société qui, pour moi, selon mon regard, en tout cas chacun voit midi à sa porte, mais qui se déshumanise, que je trouve que de souligner l'humanité d'un lieu, la solidarité qui a régné dans un lieu, me semble capital. Bien que c'est vrai qu'on vit une époque aussi où il y a plein d'initiatives solidaires qui se font. C'est très réjouissant, hein, mais c'est vraiment ce que j'aimerais transmettre. Puisqu'on dit que les écrits restent, donc là, la solidarité, l'humanité, c'est ça.
Voilà. L'ambiance de Boussieux, ça a été quelque chose d'important. Chaque fois que j'interviewais les gens, ça revenait tout le temps, cette solidarité et tout. Mais aussi l'histoire du lieu, parce que comme tout a disparu, donc laisser des traces, c'était important pour moi. Quand je dis tout a disparu,
c'est un monde qui a disparu.
Ce qui reste de Boussieux, donc initialement il y a tout, sauf les bâtiments donc industriels qui ont brûlé. Donc à l'emplacement aujourd'hui, ben on se retrouve devant une zone artisanale. La maison patronale, bon ben c'est le restaurant des séquoias, hein, que tout le monde connaît. Dans la cour des moulins, donc on peut voir encore le bâtiment de la garderie. Où là, il y a toute une histoire aussi avec les sœurs, les enfants de Boussieux. Ils ont été éduqués au niveau religieux là-bas. Bon, il n'y a plus de commerce, ni d'industrie, parce qu'on avait de l'artisanat aussi, il n'y a plus rien. Il reste à la Maison Blanche le chai de M. Gavillet, qui est maintenant Bourgoin-Peneux. Toujours dans le quartier de la Maison Blanche, il reste l'école. Bon, les cités ouvrières et les lotissements de la rue de Genève, ça a tout été vendu à des particuliers. Donc, sur deux chapelles, il nous en reste plus qu'une. Il reste au niveau architectural, donc la maison Saint-François, qui sert actuellement de maison de réunion. Et la maison Saint-Antoine, donc, où c'était la maison des sœurs et des sourdes et muettes, ça a été transformé en appartement et ça a tout été vendu. Voilà, donc aujourd'hui, il reste plus de véritables autochtones, ou alors ils sont âgés. Donc Boussieu est un quartier donc résidentiel, mais qui a perdu son âme d'antan, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la chapelle avec ses spécificités ?
Oui, c'est vrai que c'est une chapelle, on va dire, d'un aspect assez sobre. Mais qui contient des vers laliques. Et on se dit, c'est quand même assez étonnant de trouver des vers laliques dans une chapelle, dans un petit lieu-dit comme ça. Il se trouve que c'est lié à la restauration qu'a subi la chapelle en 1934, qui fait que l'architecte qui avait été désigné pour faire cette restauration était allé à l'expo de Paris de 1925 et il avait vu les travaux de lalique et il avait décidé d'inclure des vers lalique dans la chapelle. Voilà, un petit peu pour faire court. Alors, il y a effectivement des vitraux et une table de communion.
La table donc de communion a été démontée pour des besoins de commodité, mais du fait que la chapelle a été classée au patrimoine régional, le conseil général demande à ce que la table de communion soit remontée à l'identique. Donc c'est en projet.
Moi, ça fait un beau voyage dans le temps, mais on se posait la question, que reste-t-il de se passer à Boussieu? Est-ce que lors de la journée du patrimoine, est-ce qu'il y a des visites qui se font?
Voilà, oui. Le musée, même en dehors des journées du patrimoine, il y a des journées de visites qui se font avec le musée. D'accord. Des visites guidées, oui. Voilà, je crois qu'il va y en avoir une en septembre, d'autres visites. Il y en a eu une la dernièrement, là.
Est-ce qu'on peut donner rendez-vous à nos auditeurs le 14 juillet? Comme paraît qu'il y avait un magnifique feu d'artifice à Boussieu. Est-ce qu'il existe toujours et est-ce qu'on pourra aller faire la fête cette année, le 14 juillet?
Eh bien, écoutez, je suis désolée, mais le feu d'artifice n'existe plus. C'est vrai que ça a été une période faste sur Boussieu, puisque ce feu d'artifice a été instauré par M. Roland Maury. Donc, il était le mari de Madame Maury, qui était institutrice et directrice de l'école de Boussieu, qui a été quelqu'un d'important sur Boussieu, puisqu'on l'avait même désigné le maire de la commune libre de Boussieu. Tellement il était dynamique, bout en train, toujours plein d'initiatives. Donc, il y avait donc ce fameux bal du 14 juillet. Ben là, c'était une grosse manifestation. C'est le Sceau des écoles qui organisait ça. Et il y avait défilé. Le matin, M. Maury passait dans les rues avec sa camionnette. Il vendait des guirlandes, des lampions, tout ce qui concernait le 14 juillet. Alors les gens venaient acheter et puis décoraient leur maison. Et on voyait dans la journée des gens de l'extérieur venir visiter Boussieu, venir voir toute cette décoration qui avait été faite. Donc ça mettait un petit peu dans l'ambiance du soir, parce que le soir était organisé un défilé dans les rues de Boussieu, où il y avait des pompiers, il y avait des cliques de la Tour du Pin, il y avait des majorettes que Monsieur Maury avait monté, un groupe de majorettes sur Boussieu. Donc, il y avait donc ce fameux bal du 14 juillet, avec orchestre et feu d'artifice. Et ce feu d'artifice, il y avait des gens de partout, il y en avait sur toutes les collines, qui venaient voir le feu d'artifice. Et puis après, bon, ben, le terrain où se tirait le feu d'artifice et le bal a été vendu. C'est devenu un lotissement. Donc, ils se sont déplacés vers l'entreprise Bonin. Et là, donc, l'autoroute, l'AREA, a trouvé que le feu d'artifice se tirait trop près. Et c'était dangereux pour les automobilistes qui ralentissaient pour pouvoir voir le feu d'artifice. Donc, il y a eu un terme. Et puis après aussi, bon, il y avait peut-être un petit peu moins de bénévoles pour s'occuper de cette manifestation.
Donc, elle s'est arrêtée quand ?
Alors, l'année
91,
voilà.
Ouais. Oui, ben, il nous reste à vous remercier de votre disponibilité et de toutes les informations que vous nous avez données et de ce que vous venez de transmettre sur Boussieu.
Eh bien, écoutez, merci à nous. Ça a été un vrai plaisir.
Merci de votre invitation.
Voilà.
Alors, vous êtes toujours sur Couleur FM à l'écoute de l'émission Fenêtre sur cour. Avant de poursuivre l'émission avec un autre reportage, le Troquet numérique, on va vous faire un petit clin d'œil avec une chanson du groupe Chanson plus Bifluoré, qui nous fait une petite chanson sur l'informatique.
Mais attendez que je vous explique tout ce qui cause mon tourment. J'ai le Mac qui est pas trac, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, le disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué, le modem qu'a la flemme, l'imprimante bien trop lente, les cartouches qui se touchent et les bus qui abusent, les polices qui palissent, le DVD fatigué, les options en options, la souris rabougrie, le mulot qui est trop gros. Ah mon Dieu que c'est palpitant toute cette informatique, ah mon Dieu que c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps. J'ai invité la belle Suzanne l'autre jour au cybercafé. Elle m'a dit:
je préfère ta bécane, allons chez toi, fais-moi surfer.
Hélas, ma machine est en panne. Que je lui réponds, je suis désolé. J'ai le Mac qui patraque, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, ouais. Le disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué, pas le dur. Modem qu'à la flemme, la mémoire sans espoir, les options en options, la souris rabougrie, le mulot qui est trop gros. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai l'email qui s'en mêle, les circuits qui sont cuits, raccourcis, rikiki, j'ai l'index qui est perplexe, les pixels en rondelles, l'USB constipé, j'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde pas gaillarde, le graveur qui est en pleurs, le lecteur qui balbeur, moniteur et ta sœur. En plus de ça, je vous cache pas, j'ai aussi quel souci, les objets pas très frais, les virus plein de tonus, les majuscules qui bousculent, les minuscules qui copulent, le Windows qui est morose, les programmes c'est un drame, et la puce en lotus, le cordon en tire-bouchon, les MS-DOS qui a des boss, les menus mal foutus, le logiciel mon mari, et l'audio qui est idiot, la carte son qui est marron, la couleur, quelle horreur, les fenêtres qui se pénètrent, les symboles qui s'affolent, le système bien trop blême, le réseau qui prend l'eau, et du coup, voyez-vous, il vaut mieux que vous partiez, car je sens, c'est navrant, je peux plus rien maîtriser. Ah mon Dieu que c'est palpitant toute cette informatique. Ah mon Dieu que c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps. Ah mon Dieu que c'est affolant toute cette informatique. Ah mon Dieu que c'est affolant, mais qu'est-ce qu'on ferait sans.
Maintenant on vous emmène à notre suite pour un deuxième reportage sur le Troquet numérique de Bourgoin qui se situe place Charlie Chaplin. Vous savez que le café c'est quelque chose d'important en France, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, et là on a une nouvelle sorte de café, de troquet qui s'est monté, et on vous emmène à notre suite.
Tirez fort. Bonjour, le Troquet numérique.
Bonjour, bienvenue.
Bon, ben, on arrive dans une salle bien claire, agréable, avec des fauteuils, des gens qui ont un grand sourire. C'est très accueillant. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est le Troquet numérique ?
Le Troquet numérique, donc dans notre jargon, c'est ce qu'on nomme un tiers-lieu. Tiers-lieu qui est ouvert depuis le mois de novembre, donc au centre de Bourgoin, Jallieu, place Charlie Chaplin. Qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu ? Ici, qu'est-ce qu'on va y faire ? Donc en fait, on a plusieurs champs d'activité. Le premier champ étant d'accueillir des travailleurs indépendants, télétravailleurs, qui sont enfermés chez eux et qui décident à un moment donné, de travailler dans un endroit où il y a de la vie, où ils peuvent prendre un café avec quelqu'un, échanger avec quelqu'un. Donc nous louons des espaces de travail ou des salles de réunion ou de formation. Donc on se veut être un lieu accueillant entre la maison et le travail. Et à côté de ça, notre scope conduit alors des formations, des prestations, des appels à projets autour de l'audiovisuel, du multimédia, création de sites web. Et nous faisons aussi un peu d'événementiel autour de projets dits accélération de création d'entreprise.
Vous nous avez parlé de scope et vous nous avez parlé d'autres choses. Alors donc il y a deux structures qui coexistent ?
Absolument pas. En fait, la scope s'appelle TNScope et TNScope accueille le lieu où on est tous présents ici, qui s'appelle Troquet Numérique. On a donné un nom au lieu qui accueille tous ces travailleurs et tous ces projets.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi la SCOP comme structure? Dites-nous déjà ce que c'est qu'une SCOP.
Société coopérative de production. Voilà. Et le TN qu'on a mis devant SCOP, en fait, c'est territoire numérique. Donc le format SCOP, en fait, c'est un format d'entreprise, mais où chaque salarié de l'entreprise, en fait, a une voix et est impliqué dans le processus. Donc on est trois cofondateurs et on est tous les trois salariés et on a tous les trois une voix égale. Donc c'est pour ça aussi que c'est bien d'être trois. Ça peut permettre de rééquilibrer quand on n'est pas tout le temps d'accord. Mais voilà, chaque associé a une voix. On n'est pas sur un prorata au volume financier qu'on a mis dedans. Donc toute personne aura une égalité de parole, on dira. Pour l'instant, on est sur une échelle qui est relativement humaine, hein, à 3. On verra dans 10 ans, quand on sera à 20 ou 30, comment ça se gère. Après, il y a des SCOP, dernièrement, qu'on a rencontrés sur Grenoble, une SCOP notamment qui a une trentaine d'années, et ils sont 80. Et ils arrivent à garder ce modèle démocratique. Tout le monde est impliqué dans le processus et tout le monde est sociétaire de la SCOP. Voilà, on n'est pas sur du salariat.
Vous avez mis longtemps pour créer cette structure. Est-ce que c'est un parcours du combattant pour arriver à ça?
Le processus a été assez vite parce qu'on a été accompagné par une autre structure qui ressemble un peu en termes le lieu plus la SCOP qui gère le lieu. Gestion administrative et financière. Le projet, la première base d'idées a démarré en juillet 2012, au retour du forum des usages coopératifs de Brest, où on a décidé d'arrêter de travailler dans nos structures respectives. Et on va dire que toute la démarche administrative s'est finalisée l'été dernier. On avait quasi acté tous les apports financiers, etc. En un an. Donc on a eu l'avantage de pouvoir faire ça très vite parce que on a eu un très bon accompagnement, que ce soit le réseau MCAE, enfin il y a un réseau Initiative France, l'Union régionale des SCOP et puis Open SCOP qui est la SCOP sur qui on s'est basé, on a utilisé, on a réadapté à Bourgoin leur ADN. On parle plus d'ADN, du coup c'est une des premières choses qu'on a posées, c'était vraiment un socle de base qui permettait de positionner des valeurs qu'on voulait mettre dans l'entreprise qu'on crée.
Donc là, on était dans l'accueil, donc on vous accueille avec petite table basse, gâteau pour ceux qui ont faim, canapé. Donc c'est vraiment là le lieu d'accueil. Suivez-moi. Quand on passe par ici, donc vous arrivez dans un lieu qui est également un espace de travail, mais qui est la cuisine, où on peut venir manger un petit bout, mais on peut très bien venir travailler sur les tables ou les fauteuils ou le canapé. Voilà, donc la cuisine. Qu'on arrive dans la pièce à côté, donc également un lieu de travail où deux d'entre nous avons décidé d'installer notre bureau. Donc vous êtes dans une salle de travail, mais où on peut également se détendre et jouer au ping-pong, qu'on en a un peu marre parce que sa table de travail, on l'a transformée en table de ping-pong.
Si j'ai bien compris, à ce jour, vous êtes trois associés. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours respectif? Donc peut-être Muriel. Donc
moi, au départ, je suis plasticienne. Je suis plasticienne et j'ai travaillé à peu près 10 ans dans une structure à Grenoble qui s'appelle la Maison de l'Image. Structure dans laquelle je gérais une salle d'accès public au multimédia mais culturel. Et j'accompagnais des projets culturels multimédia avec des publics éloignés de la culture. C'est-à-dire des personnes handicapées, décrochage, c'est très très large comme public. Et à côté de ça, je suis graphiste et illustratrice. Et donc, l'envie de venir travailler au Troquet est venue en travaillant avec Frédéric et Alexandre sur d'autres projets lorsqu'on était dans nos anciens travails. Au bout d'un moment, on est d'accord sur le fait qu'on en a marre et on fait autre chose.
Donc moi, j'ai travaillé depuis 2007. Je travaillais à Saint-Quentin-Falavier comme animateur multimédia dans un lieu qui s'appelle La Romaz. Avec Alexandre, on a cofondé le réseau des espaces publics numériques de l'Isère. Donc il y a un réseau d'acteurs de la médiation numérique sur le territoire. On était aussi en interaction avec la CORAIA, qui est la coordination Rhône-Alpes de l'Internet accompagné. Parcours assez différent avec avec Alex, mais Alexandre, ça faisait une dizaine d'années qu'il travaillait sur Charvieux chez Vagneux dans l'espace public numérique. Et un jour, voilà, c'est ce que disait Muriel, hein, on a eu envie de changer, de prendre un peu de liberté, pouvoir passer en ce qu'on appelle en mode action, c'est-à-dire que quand on a une idée, on la met en place. On verra après les modalités pour financer cette action, mais au moins on a la liberté de se dire si on a envie de faire quelque chose, on le fait. On n'a pas besoin de demander l'autorisation. Et ça, c'est plutôt bien. Et en fait, on a choisi Bourgoin parce que c'était un point concentrique. Alexandre habite du côté de Charvieux. Moi, jusqu'à présent, j'habitais sur Lyon. Muriel était sur Grenoble. Et Bourgoin était une possibilité de se rencontrer. Donc avant tout, le projet, c'est cette idée de cette envie de travailler ensemble qui a fait qu'on s'est retrouvé à Bourgoin. Et puis après, pendant une année, du coup, on a travaillé aussi pour se mettre en contact avec notamment tout le secteur associatif, tout le monde de l'ESS, avec Couleur FM, avec ABCD, etc. Toutes ces structures avec qui on s'est connecté.
Quels sont les éléments déclencheurs qui vous ont poussé à monter cette entreprise ?
Il y a plusieurs choses entre l'envie déjà d'un fonctionnement différent dans l'organisation du travail. C'est pour ça qu'on a choisi la SCOP. Dans nos autres postes, on n'avait peut-être pas la liberté qu'on souhaitait avoir. Et puis, il y a tout cette espèce de nouveau vocabulaire que personne ne comprend. Nous, on le saisit bien par notre travail. Et donc, on avait vraiment envie de montrer une autre facette de comment travailler différemment. Sur un territoire où ça n'existait pas vraiment l'envie, pas d'être précurseur du tout, mais de
simplifier ces mots qui peuvent paraître compliqués. Et en fait, c'est pour ça souvent on dit aux gens si vous voulez comprendre ce qu'est un tiers-lieu, poussez la porte, venez dedans, restez-y une journée, et vous comprendrez mieux ce qu'est un tiers-lieu. C'est plus simple de le pratiquer que de l'expliquer en fait. Parce qu'il y a tellement de choses qui se font ici. En fait, c'est difficile d'expliquer quelque chose qui est continuellement en mouvement, en train d'évoluer, avec de nouvelles interactions, de nouvelles personnes. Donc le mieux, c'est de le pratiquer. Et après, surtout le côté un petit peu lié à l'innovation économique, etc. Ça, c'était des choses où nous aussi, on est en perpétuel apprentissage. Et là, on se positionne plus à être en médiateur. Du coup, ça rejoint notre ancien travail de médiation. Donc là, c'est une médiation qui est beaucoup plus large, qui va au-delà du numérique et qui se positionne sur énormément de champs.
C'est ce qu'on disait, la liberté d'exercer notre métier comme nous on l'entend. C'est surtout ça.
D'après ce que j'entends, vous insistez beaucoup sur le lien et le partage, en fait.
Pour moi, c'est très, très c'est important que les gens se retrouvent, même s'ils sont très différents les uns des autres. Pour nous, je crois que tous les trois, ce qui est important, c'est que quelqu'un qui est éloigné du monde du multimédia ou du numérique peut rencontrer quelqu'un qui est dedans. Et vraiment, c'est de créer du lien et de l'interaction pour dédiaboliser déjà ces rapports et puis tout le monde du privé, du public. En fait, tout le monde peut bien s'entendre. Il suffit de trouver l'accès.
Et le côté lien aussi, on parle souvent de communauté. Parce qu'au final, mais ces nouvelles communautés qui se sont constituées avec tout ce qui est usage du web, des réseaux sociaux, etc. Et voilà, nous sur Bourgoin, la notion aujourd'hui, c'est des gens Couleur FM, ABCD, Collégramme, etc. Et après, je pourrais en citer plein d'autres. Mais tous ces gens, en fait, s'intègrent dans cette communauté. Aussi, tous les travailleurs indépendants qu'on a ici. Et c'est une communauté axée sur la diversité plurielle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des gens qui sont à la fois militants associatifs, des gens qui sont entrepreneurs, des retraités, on a tout un mélange de personnes, on a des personnes qui sont en création d'activité aussi, qui viennent, enfin voilà, c'est quelque chose de très large. Après, ce qu'on retrouve chez chacune de ces personnes, c'est ces valeurs qu'on met en commun. Et qui nous réunissent aussi. Donc des valeurs qui vont au-delà du côté, c'est pas associé des valeurs qui sont associées à une couleur politique ou autre. C'est des valeurs humaines, voilà, de vouloir travailler ensemble, de vouloir évoluer, de vouloir. Du coup, en association aussi, je pourrais citer le SEL aussi de Bourgoin avec une des membres du SEL qui est assez présente ici. Enfin voilà. C'est tout ce côté communauté et confiance. La confiance est super importante. Et j'ai pu faire un tour de France récemment sur d'autres lieux comme celui-ci, comme le nôtre. Et la notion de communauté et de confiance, La confiance au cœur du processus. S'il n'y a pas confiance, on serait juste un lieu et on louerait du mètre carré. Là, nous, la valeur qui s'attache au lieu, c'est la communauté qui est en train de gonfler, qui est dans les lieux, mais qui est aussi en mode hors sol. C'est-à-dire que du coup, elle est au-delà, elle est connectée sur le territoire, etc.
Dans tout ce que vous venez de nous dire, c'est quand même vraiment des généralités. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, par exemple, d'un artisan qui rentre chez vous et il dit, voilà, je voudrais booster un peu mon entreprise. Qu'est-ce que vous me proposez ?
On a par exemple, on a reçu un jeune qui s'appelle Simon Dupuis, qui a exposé, donc vous ratez de peu de temps ses œuvres. C'est un sculpteur sur bois qui vient au-dessus de Saint-Marcelin et qui donc, lui, venait exclusivement exposer parce qu'il trouvait pas d'endroit pour le faire. Et donc ici, nous, on accueille des expositions de façon gratuite. Les gens peuvent venir profiter de l'espace. Entre-temps, il a peut-être, je crois bien, vendu une œuvre. Et en même temps, il a pu profiter d'une conférence qui se déroulait aussi ici lundi dernier, qui était menée par Cyril Molina, sur trouver sa clientèle, accélérer son entreprise, économiquement, comment ça fonctionne. Donc du coup, lui, en venant simplement exposer là, il a rencontré des gens dont c'est le métier. Et donc maintenant, il repart avec les billes en main pour comment montrer son entreprise autour de sa création. C'est un exemple. Il a 20 ans. Voilà. On continue un petit peu. Vous avez ici ce qu'on appelle donc l'imprimante 3D avec quelques exemples au-dessus de petites boîtes, de chouettes, de Yoda et tête de mort et plus sur affinité. Donc ça, c'est une imprimante 3D. Alors en fait, vous avez des petites buses et dans ces buses, un filament plastique, parce que les cartouches, comme une cartouche d'encre, ici, c'est des cartouches de fil plastique. On les voit là sur le côté, à la radio, on les voit pas, mais je vous jure que c'est un filament très fin qui est donc enclenché dans les buses. Les buses vont chauffer ce plastique et elle va descendre et faire des mouvements de long en large, comme ça, pour déposer voilà le plastique fondu. Et ça va construire les objets que vous voyez au-dessus. D'accord. Donc ça, c'est une petite boîte.
Tête de mort, on a plein de choses. On a une chouette.
Bientôt, je vais tenter la flûte et l'ocarina, puisque j'ai le modèle pour le faire. Alors, il y en a certains qu'on dessine nous. Sinon, il y a des sites internet qui vous donnent les fichiers libres que vous pouvez utiliser. Sinon, faut quand même s'y connaître, en logiciel 3D.
Quelqu'un qui a une idée?
Il peut venir avec nous. On peut réfléchir pour la réaliser. On a fait des emporte-pièces. Ça marche très, très bien. Alors, l'idée de cette imprimante, donc, il y a un coût qui est en fait le coût de la matière première et puis son usage. Mais l'idée, c'est qu'on forme les gens à son utilisation et ces mêmes personnes en formeront d'autres. C'est qu'au bout d'un moment, on s'en saisit plus. Elle est diffusée. C'est vraiment les utilisateurs qui apprennent aux autres à s'en servir. Pour qu'il y ait de l'échange, puisqu'ici, on privilégie ça. Et après, il faut payer la matière première. Mais voyez, une pièce comme celle-ci, par exemple, reviendrait autour de 6-7 euros. C'est pas non plus excessif. Par contre, c'est très long. Une pièce comme celle-ci, il faut 5 heures d'impression. Après, selon la complexité de la forme et sa taille, ça peut prendre, de 5-6 heures. Ah, dernièrement, j'ai fait une grande pièce comme ça. Ça a pris 10 heures. Voilà. Donc, c'est pas encore speed. Hein. On a une scanette. Vous scannez l'objet et puis après, vous essayez de le retravailler, vous le refabriquez. Donc, ça, c'est super pratique. On peut faire plein de choses. Tout ce qu'il faut se dire, c'est que le plastique, à haute température, il fond. Donc, faut bien faire attention à ce qu'on va mettre dedans. Mais j'ai des amis qui ont fait des gâteaux, qui ont fait des emporte-pièces avec. Pour des gâteaux, ça passe pas au four, mais ça sert à couper. D'accord. Vous pouvez faire un bac à glaçons avec des formes bizarres. Mm-hmm. Vous pouvez faire, je sais pas, plein de choses.
Comment ça vit le troquet, je veux dire, parce que là vous êtes trois, mais vous avez dû faire appel à des personnes ressources et aussi peut-être d'autres financements, je veux dire, qui est-ce qui vous aide à exister?
Au départ, du coup, comme on est un format scope, on a dû contribuer, puis comme sur une société classique, contribuer au capital. Ensuite, du coup, on a eu... on a mis en place des prêts comme une entreprise classique, mais sous une forme un peu plus solidaire. Donc on a la NEF et le réseau MCE du coup qui nous prennent de l'argent et qui aussi sont solidaires d'une autre partie du financement et l'Union régionale des SCOP. Donc tous ces assemblages ont permis d'avoir un pot de départ qui permet aussi d'investir dans du matériel comme on est dans le domaine du numérique et notamment de l'audiovisuel. On avait un investissement assez important à faire en termes de caméras, etc. Donc ça s'est fait par ce biais-là. Et puis après, du coup, on vend nos prestations, donc liées à l'audiovisuel, à la mise en place d'événements, au graphisme, création de site, formation. Sur tout le volet formation, on s'axe quand même sur des gens qui sont entre guillemets professionnels. Entre guillemets, c'est-à-dire ça peut être des salariés d'associations, d'entreprises, etc. Sur le grand public, on est plus souvent en mode sur les modèles contributifs qu'on a en soirée. Voilà.
Pour illustrer, je veux dire, dites-nous les dernières formations que vous avez proposées, par exemple, c'était quoi ?
Donc là, on a eu une formation, une des dernières formations, ça a été une formation dans le domaine de la bureautique. Alexandre a fait une formation aussi, il n'y a pas très longtemps, avec une association autour du plateau vidéo. Donc vraiment de la compréhension de comment est géré un plateau vidéo avec une remise en situation d'un JT, quoi. Voilà, sur les dernières formations qu'il y a eu.
Il y a également une formation sur GIMP, un logiciel libre de retouche d'image. Voilà, ce genre de petite formation que vous pouvez trouver ici. On continue un petit peu. Donc, on sort de notre bureau 3D. Oups. Donc ici, on ne dérangera pas mon collègue de travail, mais vous avez Alexandre qui occupe la salle de réunion. Donc c'est une petite salle de réunion où les gens peuvent s'installer pour travailler. Ici, on ne les dérangera pas non plus, mais nous avons deux coworkers. Il travaille dans ce petit bureau. Il travaille chez lui, il est juste du coin. Voilà. Et ici, nous sommes dans la salle de formation ou de réunion. Voilà, où on avait exposé les œuvres de Simon, là, devant les fenêtres. C'était super joli, bon, on n'a plus rien. Donc j'en profite pour faire une annonce. Nous accueillons gratuitement n'importe quel type d'exposition, bien sûr soumis au vote des trois collaborateurs du lieu, mais ça peut être de la photo, de la sculpture, ce que vous voulez. Et puis après, il y a un étage en dessous, mais il n'est pas complètement aménagé, donc je ne vous le ferai pas visiter, mais c'est à peu près la même superficie avec deux coworkers qui utilisent le lieu du bas également.
Le troquet numérique est vraiment né à une période pertinente. C'est vraiment dans l'air du temps, c'est...
Disons que ce sont des lieux qui existent. Alors moi, j'habite Grenoble, ça existe déjà plus ou moins. À Lyon, il y en a. Il y a plein de petits lieux un peu de partout, mais à Bourgoin, il n'y avait rien. Et donc, on s'est dit, soit on se mettait dans une grande ville on continuait notre réseau, mais bon, on trouvait ça pas très intéressant. Et ce qu'il y avait de commun dans nos anciens boulots, c'est le lien. Le lien avec les gens, et c'est ce qui nous anime, je crois, un petit peu. Donc, Bourgoin était un choix judicieux. Et puis, on s'était connus en travaillant sur Bourgoin par nos anciennes structures, donc du coup, on s'est dit, allez hop, Bourgoin.
Ici, par exemple, j'ai un gros problème avec mon ordi, ou s'il y a beaucoup de fonctions que je ne sais pas utiliser, je peux venir avec, et avec mon ordinateur, et vous allez pouvoir un petit peu me faire avancer. Vous avez la possibilité de m'aider dans ce travail.
Eh bien, en fait, il y a plusieurs choses. C'est que oui, déjà, si vous nous contactez un peu avant, on essaye de trouver un moment où on peut vous recevoir pour voir un peu ce qui ne va pas dans votre ordi et tout ça. Et à côté de ça, de temps en temps, donc je vous conseille de vous tenir un peu au courant de ce qu'on fait. Par exemple, il y a 15 jours de ça, je proposais un atelier sur retouche d'images et de photos, leur taille et tout ça, mais avec des outils gratuits en ligne sur Internet. Donc, et ce sont des ateliers libres, c'est pas payant. Donc, j'en proposerai un tous les mois et demi selon notre activité, toujours autour de ce domaine. Donc ça peut faire partie aussi des choses faisables. Et Alexandre et Frédéric, eux, mènent des ateliers plutôt en soirée. Moi, c'est plutôt l'après-midi. Mais eux font des ateliers plus autour de l'électronique. L'autre fois, ils ont fait de la musique avec des fruits et des légumes. Enfin, vraiment des trucs assez rigolos autour de robotique. Alors, ce qu'on appelle, ça parlera à certains, circuit bending, Arduino. Donc, c'est des trucs, Donc, eux, c'est plutôt le soir, de 18h à 20h. Et réparation, on ne fait pas encore. Après, ceci dit, vous avez un gros problème, contactez-nous. Et puis, si on a le temps, on regarde ce qu'on peut faire. On n'est pas non plus fermé. Il n'y a pas de problème.
Pensez-vous vous développer sur Bourgoin suffisamment pour pouvoir vivre ?
Territoire, bon, on l'espère. Au bout de 6 mois, on a déjà des contacts plutôt concluants et agréables avec le territoire. Petit à petit, s'étoffe. Donc, on n'a que à espérer qu'un jour, ce lieu sera trop petit pour prendre celui d'en face.
Vous tablez sur combien de temps pour atteindre une vitesse de croisière, on va dire ?
3 ans.
Ah, c'est bien, vous êtes raisonnable.
On est resté très raisonnable, oui, 3 ans.
Et comment est-ce que vous envisagez de vous rendre indispensable sur l'agglomération ?
On l'est déjà.
Ah, c'est parfait ! Est-ce que vous pouvez nous préciser votre adresse, le lieu où vous êtes, pour qu'on puisse vous trouver facilement ?
Sans problème, vous nous trouverez en face des impôts, au 12 place Charlie Chaplin. Vous pouvez nous contacter au 04 74 93 92 54. Nous avons également un site internet, donc vous tapez dans Google troquetnumérique.org, mais vous le trouvez tout de suite. Et pour notre scope, c'est TNScope. Et ensuite, ben, vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et tutti quanti.
Alors, vous êtes ouvert sur quelle plage horaire?
On est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Et puis, il peut arriver qu'on soit ouvert le week-end lors d'événements.
La coutume à fenêtre sur cour est de vous faire entendre une voix mythique. Pour aujourd'hui, ce sera la voix de Daniel Comendit.
Je suis né en 1945, le 4 avril. Imaginez que le 4 avril, j'arrive sur Terre et je commence à parler. Et je dis à mes parents, dans 50 ans, il n'y aura plus de frontières entre la France et l'Allemagne. Le Rhin ne sera plus une frontière, mais un fleuve commun. Mes parents auraient dit, on a un problème. Il parle trop tôt et il dit n'importe quoi. Voilà l'histoire européenne.
Eh ben merci, Dani, parce que c'est toujours visionnaire et particulièrement aujourd'hui.
On a l'habitude, à fenêtre sur cour, de vous donner quelques informations sur ce qui se passe dans le coin. Alors, à l'association Écrit et Art de Virieu, Marianne Baudenon, avec Histoire d'identité, vous propose une rencontre le vendredi 6 juin à partir de 18h30. Il y a également une exposition, elle a commencé depuis le 14 mai, mais elle se prolonge jusqu'au 22 juin, du mercredi au samedi de 14h à 18h, plus le vendredi de 9h à 12h. Et également, sur rendez-vous au 06 71 28 09 57.
Alors, nous avons aussi la semaine éco-citoyenne qui démarre le 31 mai et qui se poursuit jusqu'au 7 juin. Le premier événement qui va encore arriver, c'est le 4 juin, le mercredi 4 juin 2014, à la Maison des habitants de la Grive, qui est impasse des Palombes. En partenariat avec la CAF et le Conseil général de l'Isère, il y a ce qu'on appelle un événement éco-geste. De 10h à 12h, il y a une sensibilisation sur les trucs et astuces à mettre en place pour faire des économies d'énergie. Alors pour les enfants, c'est sous forme de jeu, et pour les adultes, c'est sous forme d'échange. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Et puis, un petit peu plus tard, le week-end, le 7 juin 2014, il y a un événement qui s'appelle « Entre ciel et terre ». Il démarre, je veux dire, sur le plateau de Mont-Dernier. Il y a deux volets. Côté ciel, de 16h à 18h30, il y a un volet astronomie avec un atelier carte du ciel, l'observation du soleil avec des instruments adaptés. Et du côté de la Terre, de 16h à 18h toujours, il y a un atelier faune et flore avec une balade découverte de la faune et de la flore animée par la Société des sciences naturelles. Et ça se poursuit à partir de 18h30 avec un apéritif qui est offert à tous par l'association Anime Mont-Bernier. À partir de 19h, vous pourrez d'ailleurs acheter des grillades ou pique-niquer avec quelque chose tiré du sac. À 21h, on aura une légende du ciel pour les enfants. Et à 21h30, une séance de planétarium sous le ciel étoilé avec une observation des astres qui sera animée par Raymond Sadin du planétarium Léo Lagrange. Et puis aussi par des astronomes de la région.
Pour ceux qui aiment le vin, venez à l'église de Vermelles, au-dessus de Nivola. Alors, du samedi 7 au dimanche 27 juillet, vous avez une exposition entrée gratuite. Les samedis, dimanches et jours fériés, de 15h à 18h30, sur la vigne, sur le vin. Et le samedi 7 juin aussi, vous avez la confrérie des échalas dauphinois, qui va défiler, et il y aura l'intronisation des compagnons, l'entrée est libre toujours, inauguration, à 18h. Pour les amateurs, toujours, ou les non-amateurs d'ailleurs, vous avez une conférence au foyer municipal de Nivola-Vermelles, le jeudi 12 juin à 20h, avec un passionné par les vieux cépages isérois, Nicolas Gonin.
Le 10 juin à 20h, le cinéma de Fellini, 8 et demi à Villefontaine, nous propose un film documentaire en Palestine, un itinéraire au-delà des frontières. Et ce mardi 10 juin à 20h, il y aura la présence du réalisateur Alaa Ascar.
Vous êtes toujours sur Fenêtre sur Cour. Nous vous invitons les Épars au stade municipal le samedi 14 juin pour la fête de la musique. L'entrée est gratuite, quatre groupes, les Éparcussions, les RTT, Jetlag et Fordrine, buvette et restauration. Cette manifestation est organisée par l'association Au cœur du village. Et vous êtes sur Fenêtre sur Cour.
Et pour terminer, le samedi 28 juin, il y a la porte ouverte du centre d'équitation Au cheval à Roche. Et de 10h à 18h, il y a une rencontre producteurs fermiers et artisans locaux. Et puis également, je veux dire, des choses autour de l'équitation, hein, des cours d'équitation et même un parcours autonomie et équilibre du vivant. Voilà, ben, vous êtes cordialement invités à vous déplacer à Roche pour voir les chevaux. Alors, c'est l'heure de nous quitter. On a passé un bon moment avec vous et vous aussi, j'espère. Et on vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Et voilà, au revoir de la part de Guylaine.
Au revoir à tous et bon mois. Au mois prochain, de la part de Maddy.
Venez nous retrouver à la CAF pour préparer nos émissions. Voilà, merci pour votre soutien.
Merci de votre attention. À bientôt.
Merci à vous et à bientôt de la part de Micheline.
Alors, encore un petit rap, finalement, on vous laisse pas tout de suite. On va vous proposer une deuxième chanson de Monsieur Venturini qui s'appelle Norma Jean.
Sur ses lèvres, on peut lire et pâlir de peur. Le bonheur dans ses notre